Ce matin, la joie et le bonheur d'être parmi vous. La matinée n'a rien changé à ce bonheur. Donc, nous voilà de nouveau ensemble. Je ne vais pas reprendre ce que nous avons déjà partagé. Notre objectif ensemble, c'est de voir comment servir Dieu. Et c'est un honneur que de pouvoir servir Dieu en raison même de son amour. Quand je considère l'œuvre de la grâce, je me dis, j'allais presque dire le mot chance, mais je le mets entre guillemets. Tu as un bonheur formidable de connaître Jésus, et parce que Jésus est venu, il a purifié ma vie, il a changé mon cœur, et la bonne nouvelle, c'est qu'il veut le faire pour chacun d'entre nous cet après-midi dans ce lieu. C'est formidable, vous nous invitez, nous venons, mais voyez-vous, celui qu'il faut inviter par-dessus tout, c'est Jésus. C'est Jésus. Si vous n'invitez pas Jésus, vous allez avoir droit à une prédication, vous allez avoir droit à une étude biblique, vous allez avoir droit à un sermon. Mais si vous l'invitez, vous aurez droit à un changement de vie, un changement de cœur. Et vous saurez ce que veut dire le bonheur de le suivre, le bonheur de le servir. Notre étude, notre réflexion se porte sur quatre piliers. Je reprends ce verset des Écritures de ce matin comme étant un verset clé. Aaron et Moïse, Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui, ses fils, à perpétuité, pour offrir des parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Donc le premier pilier, saint, être sanctifié comme très saint. Et je vous garantis, je le dis déjà, c'est qu'il y a un travail énorme. On ne peut pas, on peut faire des progrès, mais on ne peut pas se sanctifier par soi-même. On a besoin, et ça je crois que c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, on a besoin de l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus a donné sa vie, Jésus a versé son sang à Golgotha, afin que vous et moi, nous puissions être purifiés, pardonnés, lavés de nos péchés. Quand je me regarde dans le miroir de la parole de Dieu, je regarde hier et je dis, mais c'est pas possible tout ce que tu as fait. Qui pouvait t'aimer? Qui pouvait t'appeler à son service? Qui pouvait s'intéresser à toi? Vous allez me dire, mon épouse. Oui, elle est bien bonne, elle s'est intéressée à moi, je me suis intéressé à elle. Mais pour l'éternité, je crois qu'il faut que vous le sachiez, c'est le Christ qui s'est intéressé à chacun d'entre nous. Et il s'intéresse à vous, amis, là où vous êtes. Moi, je ne sais pas votre nom, je ne sais pas votre prénom, je ne sais même pas votre parcours. Mais il y a une chose certaine, une chose que je sais, vous avez besoin de Jésus dans votre cœur. Vous avez besoin du salut, vous avez besoin de connaître la vie éternelle, et alors vous apprécierez vraiment de servir le Christ en disant, mais quel honneur, quelle joie. Être sanctifié comme très saint, le deuxième pilier que nous entrevoirons, c'est offrir des parfums devant l'Éternel. Bon, il ne s'agit pas de Coco Chanel, Dior, etc. Dans le parfum, vous l'avez compris, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est la joie. Mon Dieu m'a trouvé, mon Dieu m'a sauvé, mon Dieu m'a racheté par grâce. Je suis libéré de mon péché. Je le disais ce matin, hier, j'avais un badge bon pour l'enfer. Et le Seigneur est venu l'arracher parce qu'il en a payé le prix à Golgotha. Et maintenant, je me promène avec un badge. Ne vous en déplaise, même si vous n'arrivez pas à le lire, moi, je sais le lire dans mon cœur. Bon pour le ciel. Ah, vous allez dire, un type comme lui, bon pour le ciel. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. C'est dû à sa grâce, c'est dû à sa bonté. Et quand je sais qu'il est si bon pour moi, ben, alors je me dis, il ne peut être que bon pour vous. Eh oui. Invitez-le, tenez. N'attendez pas la fin de la réunion. À votre place, là, dans votre cœur, vous avez le droit de le dire, même si le voisin ne l'entend pas. Lui, il a une oreille sensible, Dieu du ciel. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Viens dans mon cœur. C'est un instant béni, un instant merveilleux. Et ensuite, bien sûr, quand on a loué, apporté le parfum de l'adoration, comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas dire merci à celui qui, sur la croix, a versé son sang pour que nous puissions être rachetés? Après, il y a ce troisième pilier, ça coule de source, faire son service. Faire son service. Seigneur, que puis-je faire pour toi? Je veux vraiment te bénir. Je veux que les autres le sachent. Et puis, le quatrième pilier, bénir toujours en son nom. Bénir toujours en son nom. Oh, mes amis, je vous garantis qu'il faut vraiment que le Saint-Esprit soit dans notre cœur, que le Saint-Esprit nous touche pour être capable de bénir à toujours. Est-ce que, on ne va pas le répéter, c'est entre nous, on va peut-être fermer la porte pour que les autres n'entendent pas, est-ce que vous êtes toujours prêt à bénir tout le monde? Seigneur, sauve-moi. C'est juste écrit là. Ah, la réponse est là. Seigneur, sauve-moi, je ne suis pas toujours prêt. Seigneur, à bénir tout le monde. Il y a un tel qui m'a fait une crasse. Bon, pardonnez-moi le français. Il y a tel autre, on ne s'est pas trop bien compris. Il y a des problèmes, des difficultés. Et tu voudrais que je le bénisse. Non, Seigneur, ce n'est pas dans mes possibilités. Ce n'est pas dans mes capacités, Seigneur. Ça veut dire quoi? Eh bien, que toi, comme moi, tu as besoin de la grâce, tu as besoin de Jésus, tu as besoin qu'il travaille encore et encore pour être rendu capable, car c'est écrit, pour faire son service, pour bénir à toujours en son nom, en son nom. Peut-être tu vas bénir en serrant les dents, mais ça, ce n'est pas tellement la bonne bénédiction. Bon, le Seigneur a dit, mon frère, je te bénis, le Seigneur l'a dit, mais non, bon... Si vous bénissez comme cela, il y a un problème. Alors j'ai envie de dire, alors Seigneur, bénis-les, là, parce qu'ils ont vraiment besoin de délivrance. Hein. Remarquez, derrière le pupitre aussi, hein. Nous sommes des hommes, des humains, et nous avons besoin de l'intervention de Jésus. Et Jésus est prêt à le faire. Jésus est prêt à bénir, car il a toujours béni. Hein. Il est important de respecter cet ordre, être sanctifié comme très saint, apporter à offrir des parfums au Dieu du ciel, c'est-à-dire l'adoration de notre cœur. Tu es Dieu, tu es grand, tu es merveilleux. Et je pense à Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est la bonté de Dieu. C'est important. Oui, nous devons comprendre cela. Être apporté au Seigneur les choses qui sont très saintes. Des offrandes pour louer son nom. Pierre dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous puissions annoncer les vertus de la gloire de Dieu. Je crois que c'est important de comprendre ce point-là et de réaliser que nous sommes mis à part comme très saints. Ce que j'aime avec Dieu, voyez-vous, c'est que Dieu ne va pas dans la demi-mesure. Je l'ai souligné ce matin, ça m'a personnellement, humainement dérangé, mais vous savez, quand Dieu nous dit la vérité, il faut l'apprendre, c'est pour nous aider. Quand vous allez chez le médecin, c'est vous qui faites l'ordonnance ou c'est le médecin? Moi, de temps en temps, on lui glisse bien, il vous mettra un peu de ceci. Ouais, docteur, je sais, c'est mon corps quand même, je sais bien quand j'ai mal ou j'ai mal et pourquoi j'ai mal. Ben, si tu sais tout ça, c'est pas la peine d'aller chez le médecin. Si tu sais tout. Non? Je vais chez le médecin parce qu'à un moment, je comprends pas. Je crois que, je pense que, ben, et quand j'arrive dans son cabinet, lui, il me dit quelque chose d'autre. Quand je regarde la parole de Dieu, et on parlait de l'amour de Dieu, et là, on va parler du besoin d'être sanctifié, c'est-à-dire que la grâce de Dieu intervienne dans notre cœur et dans notre vie. Eh bien, Dieu va nous dire, c'est à cause de ton péché, c'est à cause de ta misère, c'est parce que tu ne fais pas les choses comme il convient de les faire. Alors moi, je viens, et voilà ce que tu dois faire. Seigneur, je préférais que... Non! Seigneur, si tu t'arrangeais pour que... Non! Le Dieu de la Bible est parfois têtu. Vous n'avez jamais eu des conversations avec Dieu? Oh, moi, ça m'est arrivé. Quelquefois, j'ai essayé de le faire changer d'avis. Ouais. Ce serait bien, tu sais, si tu... Non, pas question. Je suis le Dieu qui ne change pas. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et s'il y a quelqu'un qui doit changer, dit Dieu, c'est pas moi, c'est toi. Oh, c'est pas vrai. C'est moi qui dois changer. Eh oui. Mais je vais t'aider si tu veux. Parce que tu peux pas tout seul. Mis à part pour être sanctifié, écoutez bien, comme très saint, très saint. Dans le livre de l'Apocalypse, vous qui lisez la Bible, il y a un passage qui dit « Tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être l'un ou l'autre, sinon je te vomirai de ma bouche. » Il n'y aura jamais de vie placée convenablement au service de Dieu selon le standard biblique si cette vie n'entretient pas une relation intime avec Dieu afin de devenir un vase, un récipient, un cœur d'une grande propreté tant au point de vue moral que spirituel. Nous savons que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Seul le sang de Jésus nous purifie de tout péché. J'allais dire, c'est un détachant. Il n'y en a pas d'autre pour ôter notre péché. Merci Seigneur. Et puis il y a le Saint-Esprit. Parce que parfois, le chrétien... Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. Vous me pardonnez d'avance? Ah, vous n'osez pas là, hein? Le chrétien, il est un peu rouillé. Ça, hein, un peu rouillé. Oui, Seigneur. Ah, vous m'auriez vu dans ma jeunesse autrefois. Alléluia, gloire à Dieu. Ben, je ne manquais pas une réunion. Les cantiques, j'étais le premier. Lire la Bible. Ben, voilà. Hein. Et puis, le temps a passé. Non, mais pas à Nantes. Hein. Non, écoutez, il faut que je tienne jusqu'à mercredi. Ne me créez pas des ennuis tout de suite, quand même. Bon, mais... Allez, ça arrive qu'on soit un peu rouillé. On n'a plus le même dynamisme, on n'a plus la même énergie. J'ai entendu tout à l'heure, il y avait des paroles là qui parlaient du feu. Et je pense au Saint-Esprit. Savez-vous ce dont nous avons besoin cet après-midi, en plus du sang précieux de Jésus? c'est de la puissance, c'est du feu du Saint-Esprit dans notre cœur et dans notre vie. Cela va nous aider, cela va nous fortifier, car la première pensée de Dieu, c'est que nous soyons dans ce monde incrédule, dans ce monde pervers, c'est que nous soyons sanctifiés, mais pas sanctifiés à la légère. La pensée de Dieu est très haute, la pensée de Dieu est très noble. Dieu veut pour toi comme pour moi, il veut le meilleur, il veut le meilleur. Et je trouve que c'est bien, mais oui. Sachons nous exposer à l'œuvre du Saint-Esprit, au feu du Saint-Esprit à la Pentecôte. J'ai lu ce passage dans le livre d'Ézéchiel, si vous voulez la référence. Ézéchiel au chapitre 24, les versets 11 et 12. Il est dit ceci, « Puis mets la chaudière vide sur les charbons afin qu'elle s'échauffe, que son airain devienne brûlant, que sa souillure se fonde au-dedans et que sa rouille se consume. Les efforts sont inutiles. » La rouille dont elle est pleine ne se détache pas. La rouille ne s'en ira que par le feu. La rouille ne s'en ira que par le feu. Et je pense au feu du Saint-Esprit, à la puissance de Dieu. Quelquefois, on veut faire des efforts par nous-mêmes. C'est bien, c'est bien. Mais laissez-moi vous dire, chers amis, qu'aussi compétent que vous êtes, vous ne pouvez pas faire l'œuvre que seul Jésus est capable de faire. La transformation de votre cœur et de votre vie. L'un des problèmes des églises actuelles, c'est le manque d'ardeur. Pardonnez-moi de dire ceci, mais je suis là pour annoncer la vérité, pour annoncer les faits. C'est le manque d'exposition à l'œuvre du Saint-Esprit, au feu de l'Esprit, au feu de la Pentecôte. Nos aînés, mes aînés, étaient des hommes de la Pentecôte. Ils cherchaient la face de Dieu. Ils prenaient le livre des actes. Ils avaient entendu le message qui conduit au vrai service, dans sa vraie dimension pour Dieu. Et le Seigneur avait même dit, « Mais voilà, soyez réunis. Et puis, ne bougez pas, priez jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Vous recevrez une puissance. Et pour vivre notre vie de chrétien dans un monde hostile, dans un monde de tentation quotidienne, dans un monde où on a même pas besoin des autres pour être tenté. Quelquefois, c'est juste dans notre tête, c'est juste dans notre cœur. Il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Oh Seigneur, Seigneur, déverse ton Saint-Esprit. Seigneur, que sur chacun d'entre nous, il y ait cette bénédiction. Pendant que je préparais ces notes, mon épouse m'a apporté un document assez intéressant. C'est celui d'un philosophe, un philosophe polonais, en 1973. Alors, je l'ai noté parce qu'il parle de la position de la chrétienté aujourd'hui, où on ne sait plus avoir une vraie identité de service. On a l'impression que nous sommes dans un monde où le chrétien se cache. Il n'ose plus dire qu'il est chrétien. Bon, c'est vrai que nos lois proclament la laïcité, mais moi, la loi peut proclamer la laïcité autant qu'elle veut. Je suis un enfant de Dieu. Je reste un enfant de Dieu. J'ai une identité. Et d'origine, je suis même normand, même chez les Bretons. Vous avez un Normand avec vous, les Bretons. Mais n'ayez pas peur, c'est un Normand converti. Au service du Seigneur. Et dans le service du Seigneur, il n'y a que de bonnes choses. Alors il écrivait ceci, que je ne perds pas mes notes. Il écrivait, la chrétienté semble être en proie à une peur panique. Celle de se trouver toujours plus dans la position d'un groupe isolé. Elle effectue, la chrétienté, des essais d'adaptation insensé, afin de ne pas être englouti par ses ennemis. Elle cherche à adopter les couleurs de son entourage, dans l'espoir de sauver sa vie de cette manière. En réalité, elle perd ainsi son identité, qui consiste justement dans la séparation entre ce qui est saint et ce qui est profane. Cette critique est juste. La chrétienté perd son identité parce que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne le sont que de nom. Et la grande ruse du diable consiste, écoutez bien, à effacer la ligne de démarcation entre le bien et le mal, entre ce qui est saint et ce qui est profane. Chez les disciples de Jésus-Christ, au contraire, cette identité était clairement visible, on les reconnaissait, et c'est écrit dans Actes chapitre 4, verset 13, on les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Quand on va avec Jésus, quand on rencontre Jésus, quand on a ce parfum du salut et de la vie éternelle, alors on le porte sur soi, on le porte en soi. Vous savez, quand l'Esprit de grâce nous parfume de l'odeur de l'Évangile de Jésus-Christ, vous êtes porteur de cette odeur. Et quand vous promenez, vous n'avez parfois pas besoin de dire que vous êtes chrétien. Les gens sont là et disent, mais il a quelque chose que je n'ai pas. Il a quelque chose que je n'ai pas. Alors, on peut répondre, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est la puissance de Dieu. Hein? Oui. Alors que Jésus venait d'être crucifié par les hommes, ses disciples ont montré leur attitude par leurs paroles, leur attachement à leur sauveur, leur ressemblance à lui. C'est pourquoi il dit, en fin de citation, « Amis, ouvrez la Bible, lisez la Bible, écoutez la Bible. Ce n'est pas une parole d'homme, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. » Et si vous voulez entendre Dieu parler, alors lisez la Bible, relisez la Bible. C'est l'instrument de mesure. Ne changez rien de ce qui est écrit, même si ça vous déplaît. Ne changez rien, c'est la parole de Dieu. On peut me présenter n'importe quel livre. Il y a toujours la Bible à côté pour vérifier. Je n'enlève rien. Quelquefois, j'ai envie de dire, Seigneur, tu aurais dû écrire autrement. Il y a des vérités qui me dérangent, vous savez. Je suis un peu comme cette femme qui vient de quitter le Seigneur au puits de Sichard. Elle court au village. Venez voir, venez voir. Il m'a dit toute la vérité. Rien que ça. Toute la vérité. Dites donc, entre nous, s'il y avait un jour anniversaire de la vérité, rien que la vérité, chou, vous ne croyez pas qu'il y aurait des problèmes? Parce qu'une demi-vérité, c'est un gros mensonge. Ne touchez pas à ce livre. Lisez-le. Si vous avez du mal, demandez à Dieu de vous aider. Ça, c'est le premier service. C'est le pas vers la sanctification. Je vais vous raconter une histoire. C'est un fait réel qui aurait pu me coûter très cher parce qu'il aurait pu me coûter la réussite à un examen. Jeunes gens, vous qui êtes dans la technique, la mécanique, ne faites jamais ce que j'ai fait. Vous avez fait quoi? Ah, ça y est, vous êtes curieux là. Hein? Écoutez, Un jour, au lieu de limer la pièce d'ajustage, j'ai limé le bec du pied à coulisse. J'ai eu une note magnifique. Le professeur est arrivé, il a mis mon pied à coulisse sur la pièce. Capron, vous avez fait des progrès. Au ciel, ce n'était pas enregistré de la même manière. Oui, mais attendez. Le jour de l'examen, je me suis retrouvé avec mon pied à coulisse, sauf que le correcteur avait le sien. Commencez à comprendre ? Chaque fois que je mesurais, je disais, Seigneur, je ne recommencerai plus jamais. Mais il fallait que je me rappelle que j'avais enlevé je ne sais plus combien de microns. Et puis, voilà, je remettais. Oui, Seigneur, je te promets, je ne recommencerai plus. Il m'a aidé. J'ai réussi l'examen. Merci Seigneur. C'est pas bien ce que j'ai fait. Hein. Et maintenant j'ai compris. J'ai un instrument de mesure. Mes frères et sœurs, j'ai un pied à coulisse. Le Seigneur m'a donné un pied à coulisse merveilleux. Alors, vous ne me verrez pas enlever un verset. Non, 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 non. Il peut être dur ce verset. Parfois, je ne comprends pas. Mais il est là, et parce qu'il est là, il reste là. C'est la parole de Dieu. Parce que vous serez sondés, vous et moi, sur ce qui est écrit. Jésus lui-même a dit, n'est-il pas écrit ? N'avez-vous pas lu ? N'avez-vous pas entendu ? Et si quelqu'un te dit que tu peux être sauvé par tes œuvres, alors réponds non. Je suis sauvé uniquement par le sang précieux de Jésus qui a coulé à Golgotha. Je sers le Seigneur, je l'aime, je veux lui être utile, je veux être utile à mes frères et à mes sœurs. Je sais que j'ai besoin de sanctification, mais ma sanctification, si je veux passer de saint même à très saint, comme la Bible le demande, ce n'est pas en arrachant une page de la Bible. Un jour, une personne a offert une Bible à une autre personne. C'est bien. Et lorsque la personne a ouvert la Bible, elle a dit, c'est pas possible, elle est toute découpée. Elle dit, mais je vous ai rendu service, j'ai enlevé les versets que vous n'aimez pas. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Non, il y a des versets peut-être qui nous font mal, qui font mal à notre chair. Mais sachez que quand il intervient, le Seigneur, c'est toujours pour nous aider. Ce n'est pas, la Bible n'est pas une parole des hommes. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Veux-tu que Dieu te parle ? Lis la Bible. Relis la Bible. N'arrête pas de lire la Bible, parce qu'elle est donnée par Dieu pour le salut de ton âme, pour ta sanctification. Ben, c'est quelque chose d'important. Ben, maintenant, évitons aussi un autre écueil dans cette marche vers la sainteté, la sanctification. J'allais dire être de mieux en mieux au regard de celui qui nous aime et qui nous a sauvés. C'est de se mesurer par rapport aux autres, l'orgueil. Moi, je... Toi, mon frère, tu n'y arrives pas, hein. Mais moi, je... Il y a une parabole dans Luc au chapitre 18. C'est Jésus qui parle. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Bon, ben, Seigneur, c'était en Palestine, hein, pas à Nantes. Et je continue la lecture, ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ben oui, tout ne se crie pas non plus, non. Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même, il n'a pas montré du doigt, mais il y pensait très fort, c'est moi qui l'ajoute là, hein, comme ce publicain. Non, je regardais frère ici, mais vous n'êtes pas des publicains, rassurez-vous. Ouais, n'est-ce pas? Ben, c'est parce qu'il s'adressait à des personnes. Non, je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. La sanctification n'est pas là pour nous porter à des comparatifs humains, à des jugements humains. Si tu progresses, si tu veux entrer dans une sanctification pour servir Dieu comme il entend être servi, c'est parce que tu aimes Dieu, tu le fais pour Dieu et tu regardes à Dieu, et Dieu est l'objectif de ton cœur. Autrement, tu ne pourras jamais bénir. Dans Romains, au chapitre 12, au verset 1er, il est dit ceci, c'est une exhortation. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Oui, on a besoin de comprendre cette nécessité de la sanctification de l'œuvre de Dieu. Si je me regarde à moi-même, après tout, je veux dire, t'es pas si mauvais que ça. Quand on se regarde soi-même. Vous savez, j'ai un petit dessin là. Vous ne pouvez pas bien voir de là-bas, mais quand je regarde comme cela, ce dessin, c'est le visage d'une magnifique jeune fille avec une couronne. D'une beauté. Je montre au frère là. Ça, c'est quand on se regarde soi-même. Voilà. Et puis, une fois que Dieu touche notre cœur, ça s'appelle la conversion. On a compris. On n'a plus le même regard sur nous-mêmes. On n'est pas en train de juger les autres, mais on juge son propre cœur. Et on se dit, misérable que je suis. Qu'est-ce que vous pensez de la même personne maintenant? Hein? Vous ne pouvez pas voir, elle est affreuse. Affreuse. C'est le même, la même personne. Quand elle est comme ça et qu'elle se regarde elle-même, qu'est-ce que je suis belle. Quand Dieu regarde, il dit, qu'est-ce que t'es laid. Et quand on se convertit, alors Dieu dit, maintenant, qu'est-ce que t'es beau. T'es lavé, t'es purifié, t'es sanctifié. Dites, mes amis, comment voulez-vous que Dieu vous regarde? Hein? Eh oui. Oh. Bon, je range. Hein. Non, mais j'ai toujours des petits trésors avec moi comme ça, parce que je dis quelquefois, une image, c'est mieux qu'un sermon. Quand on se regarde. Ouais. Un jour, Ésaïe, vous retrouvez ça dans Ésaïe au chapitre 6, vous pourrez relire. Les sept premiers versets, il est dans le temple. Il est dans le temple, il est dans la maison de Dieu. C'est solennel, c'est bien d'être dans la maison de Dieu. Et puis, il a une vision. Il voit la sainteté de Dieu. C'est d'une beauté inouïe. Inouïe. Dieu va lui parler. Et puis, à un moment, il va dire, mais qui suis-je? Misérable que je suis.
non seulement je suis au milieu d'un peuple impur, mais mes lèvres sont impures. Comment pourrais-je être au service d'un maître si saint, si solennel, créateur des cieux et de la terre, donateur de la personne de Jésus-Christ? Comment le pourrais-je? Et il nous est dit là, un séraphin est venu, il a pris un charbon ardent, et il l'a mis sur ses lèvres. Il a dit, maintenant, je te purifie. C'est beau d'être purifié. C'est magnifique de se sentir propre. Ouais. On ne peut pas le faire par soi-même. Pense à cet enfant qui... Laissez-moi prendre une image, parce qu'il y a aussi des enfants, ça va leur parler. Il avait mis ses doigts dans le pot de confiture. Et il en avait partout. C'est bien bon, hein? Et puis à un moment, il s'est aperçu que quand... Oh, quand même! Savez ce qu'il a fait? Et bien sûr, ça ne l'a fait qu'empirer. La phrase est ça. Si vous découvrez votre misère, c'est pas la peine de faire. Vous allez tout étaler. Ce sera pire encore. Pire encore. Je vous conseille d'aller vers le Seigneur. Seigneur, regarde dans quel état je me suis mis. J'ai pas goûté au pot de confiture, Seigneur, j'ai goûté au péché, à la misère. Je suis sale. Je suis sale. Misérable. Et le Seigneur va dire, j'ai œuvré à la croix. Seigneur, comment veux-tu que je te serve dans cet état? J'ai pourtant envie de te servir. D'accord. Mais il faut d'abord que je te rende propre. Il faut que je lave ton cœur. Il faut que je lave ton âme. Il faut que je te frotte bien. De façon à enlever, n'est-ce pas, cette carapace du péché. C'est quelque chose d'important. Avant même de penser à la manière dont nous devons ou nous aimerions aider les autres. Mes frères et sœurs et amis, pensons à notre relation avec Dieu. Quelle est la qualité de ta relation avec Dieu? Quand as-tu parlé à Dieu pour la dernière fois? Que lui as-tu demandé? Que tu lui as-tu dit? Est-ce que tu t'es éprouvé toi-même? Est-ce que tu t'es donné toi-même? Parce qu'avant même d'envisager d'être un don à l'Église, nous devons d'abord nous donner à Dieu sans réserve. Sans réserve. Paul dira aux Corinthiens, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Le Seigneur n'est pas venu vous prendre de force. Fais attention à toi, si tu n'es pas chrétien, ça va te coûter cher. Oui, je suis chrétien. Non, mais ça marche pas. Moi, je suis devenu chrétien parce que j'avais envie de devenir chrétien. Parce que j'ai compris la grâce de Jésus. Et le jour où le Seigneur m'a appelé à le servir, j'étais tout jeune. Tout jeune. Et je vous dirai pas quel âge que j'avais. Parce qu'après, vous allez faire des calculs en arrière pour savoir quel âge que j'ai. Non, mais oui, non, mais je connais les humains. Je fais partie des humains. Je sais comment les humains raisonnent. Mais ce qui est important, c'est que j'ai réalisé combien le Seigneur était celui qui était venu me chercher. Et quel honneur pour moi. Je ne savais pas grand-chose. J'ai dit, Seigneur, il va drôlement falloir que tu m'aides. Il va falloir que tu uses de compassion, que tu uses de miséricorde. Et voyez-vous, Dieu est bon. Il use de compassion à mon égard parce qu'il m'amène même jusqu'à Nantes avec des gens pleins de compassion. Ça, c'est bien, hein? Oui.
c'est quelque chose d'extraordinaire. On se donne d'abord, mis à part, pour être sanctifié comme très saint. L'ensemble de la phrase indique bien qu'il s'agit plus que d'une simple approche. Il s'agit d'entrer dans la sanctification, dans une vie qui cherche à plaire à Dieu. Est-ce que vous cherchez à plaire à Dieu? Est-ce que vous cherchez à faire ce qui est agréable à Dieu? Et comment savoir ce qui est agréable à Dieu? Il n'y a pas d'autre moyen que de lire la Bible. Oui. Ensuite, eh bien, nous faisons, peut-être cela vous étonne, vous savez que nous avons quelquefois des titres dans la Bible, bon, bien sûr, on ne se pavane pas avec, mais quand même, ça fait chaud au cœur. Petite pointe de fierté de temps en temps. Paul dit ceci aux Corinthiens, « Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. » Ça vous plaît d'être ambassadeur? Hein? Il n'y a pas beaucoup à qui ça plaît. Hein? Moi, ça, ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu, attendez, c'est très fort, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, hein, soyez réconciliés avec Dieu. C'est un message formidable. La sanctification, l'esprit de consécration vient et ne peut venir que de l'image que nous avons de Dieu. Quelle image avez-vous de Dieu? Comment comprenez-vous Dieu? Parce que Dieu, oui, c'est un nom, mais comment le ressentez-vous? Si Dieu est Dieu, dit un passage des Écritures, alors où est le respect qu'on lui doit? Si vous dites il est le maître, où est donc l'obéissance et qui amène à se soumettre au maître? C'est quelque chose d'important. Nous trouvons dans la Bible des commandements. Nous trouvons dans la Bible des ordonnances. C'est écrit pour ceux et celles à qui Dieu accorde un don en faveur de l'Église, mais en même temps pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi la Bible insiste. Sanctifié comme très saint, c'est pas de l'à peu près. Il y a des étudiants dans l'auditoire? Levez votre main, les étudiants. Là. Ah oui, oui, oui. Dites donc, il y en a combien parmi vous qui se contentent de la moyenne? Oh, aïe, aïe. On arrive à la maison. Bah, j'ai eu la moyenne. Hein. Dites, la moyenne, c'est juste le milieu. Hein. Entre 0 et 20, c'est juste 10. C'est... Ah ben j'ai la moyenne. J'ai la moyenne. Il y a des chrétiens qui se contentent de la moyenne. Oh, mais pas trop n'en faut. Faut pas être chrétien à l'excès. Il n'y a pas de danger que tu sois chrétien à l'excès. Hein. Déjà dans ta nature limitée, dans tes tentations personnelles, tu as bien besoin que le Saint-Esprit te soutienne tous les jours et te fasse grâce. Alors, n'aie aucune crainte, tu ne seras jamais trop chrétien. Oui, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues en moi. Vous comprenez pourquoi la Bible dit sanctifié comme très saint. Elle ne dit pas simplement sanctifié comme très saint. Quand je regarde, il y avait dans cette sanctification même le vêtement. Bon, c'était dans l'Ancien Testament, je vous le concède.
dans Exode chapitre 28, verset 2. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Et si l'Église est l'épouse de Christ, nous pouvons parler de la parure de l'Église sur la base biblique. Oh combien la parure, j'allais dire, intérieure est plus importante que la parure extérieure. Mais vous ne me ferez pas dire autre chose que si la parure intérieure est bonne, la parure extérieure le sera. Quand ça part de notre cœur à l'intérieur, ça va vers l'extérieur. Par contre, on sait que chez les pharisiens, dans l'autre sens, ça ne marche pas. La conduite, votre conduite, ma conduite, n'est autre que le reflet de notre cœur. Ni Aaron ni ses fils ne décidèrent du type de vêtements dont ils seraient revêtus. Si vous regardez bien et vous êtes des lecteurs de la Bible, vous n'aurez qu'à relire dans le livre de l'Exode, le chapitre 28, pendant 43 versets, le détail, même vestimentaire, etc., dans l'Ancien Testament, est donné par Dieu à Moïse. Et je crois que dans notre nature spirituelle, en typologie biblique, chacun sait que le vêtement, selon le dessein de Dieu, nous parle de la nature de Christ et de sa mission. Nous devons revêtir le Christ. Nous devons le revêtir. Seigneur, fais que tes pensées deviennent mes pensées. Le Seigneur va dire, il y a du travail chez toi, mon gars. Mais le travail ne me fait pas peur. Si tu veux, on y va. On commence quand? Oh, la semaine prochaine, Seigneur. Le Seigneur dit, non, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant. Hey, pour donner ton cœur au Seigneur, toi qui ne l'as pas encore fait, je profite parce que c'est de l'évangélisation en même temps. Hein. C'est dur de faire de l'édification qui évangélise. Tu attends quoi pour donner ton cœur au Seigneur? Demain? Après-demain? Non. Non. Tu peux le lui donner maintenant. C'est important de comprendre cela. De revêtir le Christ. Chacun se souviendra de cet homme rejeté dans la salle du banquet pour le seul fait de s'être présenté sans être revêtu du vêtement approprié. C'est une parabole dans Matthieu au chapitre 22, versets 10 à 14. Il y a quelqu'un qui entre et on lui dit « Mais comment es-tu entré ici et sans avoir un habit de noces ?» Et cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors !» où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Frères et sœurs et amis, on a le droit de dire, et il faut le dire, le Seigneur nous prend tel que nous sommes, tel que je suis, je vais vers le Seigneur. Écoutez bien, pas pour rester tel que je suis. Pas pour rester tel que je suis. Pour être changé. Pour être transformé, pour qu'une œuvre de conversion se passe dans mon cœur, pour que je devienne un enfant de Dieu. Quand on va vers le Seigneur, il fait une œuvre merveilleuse en nous. Il nous transforme, il nous aide, il nous apporte ce qui est indispensable à notre vie. Alors, on ne va pas prendre cette parabole, essayer de l'expliquer. Comment est-il entré? Y a-t-il eu manque de vigilance, etc., etc. Mais en tout cas, il y a un constat. Ben, c'est que cette personne n'avait pas revêtu ce qu'il fallait.
Et si tu veux entrer dans le royaume des cieux, tu as besoin d'être revêtu de la grâce de Jésus-Christ. Pour servir le Seigneur, il faut s'engager avec le Seigneur. Ça, c'est important. C'est important de le comprendre. Hein? Oui. La responsabilité dans le domaine de la sanctification est pour chacun d'entre nous. Je crois qu'il faut comprendre ces éléments-là. Il y a bien des passages dans la parole de Dieu. Je les passe, mais je voudrais tellement insister sur cette pensée mise à part pour être sanctifié comme très saint. Je voudrais que ça reste dans notre tête, que ça tourne autant de fois que nécessaire, hein, en boucle, là, au-dessus, dans cette zone, au-dessus des sourcils. Seigneur, ton désir, c'est que tu veux que je sois sanctifié comme très saint. Tu n'es pas le Dieu de la moyenne. Tu n'es pas le Dieu du rabais. Tu as un grand plan pour moi. Tu veux me voir grandir. Tu veux me voir dans une beauté, dans une stature spirituelle qui honore ton nom. Et ça me paraît important. Vous savez, trop de chrétiens, même dans le service de Dieu, sont en dessous de la dimension de ce que Dieu veut leur offrir, de ce que Dieu attend. Nous vivons parfois une vie au rabais, alors qu'il y a un tel potentiel que Dieu veut nous offrir si nous savons nous placer devant lui, le laisser agir dans notre cœur et entrer en lui disant « Sanctifie-moi, Seigneur. Oh Seigneur, sanctifie-moi. » Il y a des chants, il y a des paroles sublimes, je ne sais pas ce que les chrétiens en font. Plus de toi, Seigneur. Il n'y a pas longtemps que j'ai entendu cette phrase. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Est-ce que vous voulez plus de lui encore? Eh oui, il faut s'ouvrir pour cela. Oui, en disant cela, je pense à un récit, une image qui peut aider. Elle n'est pas dans mes notes, elle me vient à l'esprit. C'est un jour un infirmier qui a trouvé un aiglon, le petit de l'aigle. Et il l'a mis au milieu des poules et des canards dans son poulailler. Et l'aiglon s'est mis à vivre comme les poules et les canards, à picorer. Et il avait un ami vétérinaire qui a regardé. Et l'autre lui a dit, tiens, viens voir ma basse-cour, viens voir. Il regarde la basse-cour, il dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un aiglon. Qu'est-ce qu'il fait dans ta basse-cour? Tu vois pas qu'il est en train de vivre comme des poules, là? Il picore, c'est pas sa place. Un aiglon, c'est fait pour devenir un aigle. Et un aigle, c'est fait pour voler dans les cimes. C'est fait pour monter très très haut dans le ciel. Ah bon? Il dit, il faut lui redonner sa nature. Alors il a pris l'aiglon. Il est allé dehors. Vous savez, quelquefois, Dieu a du mal avec nous, hein, comme ce vétérinaire a eu du mal avec l'aiglon. Oh, merci Seigneur pour ta patience. Et à chaque fois qu'il mettait l'aiglon dehors, l'aiglon tuait et revenait à la basse-cour. C'est pas vrai qu'il disait, c'est pas possible. C'est pas un aiglon, c'est une poule. Et pourtant, dans sa nature, il y a quelque chose qui dit qu'il est fait. Il est fait pour une vie tellement différente. Alors il a continué avec patience. Puis un jour, l'aiglon avait commencé à développer ses ailes et il a commencé à prendre son envol. Et puis il l'a vu arriver dans la basse-cour. Et cette fois-là, il n'a pas raté le poulet. Paf, il l'a pris dans ses serres. Et puis il s'est envolé. Aïe, aïe, ça y est, il a retrouvé sa nature. Ce n'est pas pour que vous alliez dans le poulailler du voisin. Hein. Faut toujours faire attention aux images. Mais c'est simplement pour cette nature. Nous vivons, mes chers amis, nous vivons quelquefois une vie de chrétienté pauvre. Pauvre. Alors que le Seigneur
nous appelle dans cette sanctification. Il nous appelle à une vie plus élevée, à une vie de victoire, à une vie de Pentecôte, une vie où on est capable de distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, une vie qui nous fait monter là vers ce rocher qui nous semble si haut à atteindre. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, qu'on lui livre notre vie, n'est-ce pas lui qui nous donne notre envol? N'est-ce pas lui qui vient nous aider? Oh, je sais bien, les premiers pas ne sont pas forcément faciles. On revient vite à la basse-cour. C'est tellement plus facile depuis Corée. Il y a des chrétiens comme cela. Hein? J'en ai rencontré. Mais je suis pas là. Pas là, non, Seigneur. Ça n'existe pas. Hein. Pourtant, sanctifier comme très saint, retrouver les propriétés de la vie chrétienne, retrouver les qualités, tout ce qu'il y a de beau, de magnifique, de fort dans le mot chrétien. Quand on parle de quelqu'un qui est chrétien, c'est un nom qu'on a donné à des personnes parce qu'on les a reconnus pour être allés avec le Christ, pour avoir adopté la pensée du Christ, pour avoir, j'allais presque dire, recopié dans leur vie la beauté de la personne de Jésus, mise à part, mise à part. Oui. Quand on voyait le Seigneur, il nous a dit, la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient même plus prendre le temps de le repas. C'est quand même important de voir cela. Je lisais ce passage un peu plus loin, dans 2 Chroniques 30-27, les sacrificateurs, les lévites se levèrent, bénirent le peuple, leur voix fut entendue et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient compris cette marche de la sanctification. C'est important. C'est important. Dites, mes frères et sœurs, vous faites la vaisselle, non? Et je peux vous poser une question indiscrète? Pourquoi faites-vous la vaisselle? Non, mais pourquoi faites-vous la vaisselle? Pour que ce soit propre, bien sûr. Et vous allez remettre ça sur la table, ils vont la ressalir et vous allez recommencer. Vous ne trouvez pas que c'est répétitif? Pourquoi laver la vaisselle puisqu'ils vont la ressalir? Le Seigneur lavera toujours notre cœur parce que de par notre nature, excusez-moi, mais nous sommes toujours en train de nous salir. En pensée, en ceci, en cela, il y a toujours quelque chose pour lequel nous devons dire au Seigneur, j'ai pas pensé comme j'aurais dû penser. J'ai pas agi comme j'aurais dû agir. J'ai pas réagi comme j'aurais dû réagir. Seigneur, c'était profane. Mais j'ai pensé que c'était mieux pour moi qu'eux, et j'ai eu tort. Seigneur, tu es saint, 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 et tu m'as appelé, et pour te servir, Seigneur, j'ai besoin d'être saint, j'ai besoin d'entrer dans ce vêtement de la sainteté, j'ai besoin d'entrer dans le climat de la pureté, j'ai besoin d'entrer dans le climat de la consécration. J'ai besoin de retrouver cette identité d'enfant de Dieu. Seigneur, tu as raison de dire, mis à part pour être sanctifié comme très saint. Est-ce que vous voulez la perfection? On a du mal à dire amen. Hein? On la veut. On la veut dans notre pensée. Mais ensuite, sur le terrain, ce n'est pas si évident que cela, mes frères et sœurs, mais je suis convaincu que Dieu veut nous aider. Je suis convaincu qu'il veut bénir
c'est là quelque chose d'important. Ben. Et savez-vous ce qui s'est passé lorsqu'ils ont accepté de se sanctifier? J'ai lu dans 2 Chroniques, chapitre 30, verset 7, je le prendrai comme verset de conclusion. Les sacrificateurs et les lévites se levèrent et ils bénirent le peuple. Écoutez bien. Et leur voix fut entendue et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Qu'autrefois leur prière n'était pas entendue? Ça veut dire qu'il y avait un problème relationnel? Pour que d'un seul coup on dise, et leur voix fut entendue. Ils se levèrent et ils bénirent le peuple. Si nous voulons être en bénédiction, il faut que nous progressions sur la voie de la sanctification, sur la voie de la consécration, en disant, Seigneur, tu es venu me chercher, mais Seigneur, maintenant il faut encore que tu me transformes. Seigneur, il faut que tu agisses encore dans mon cœur. Seigneur, il m'arrive encore d'avoir des pensées qui ne sont pas tes pensées. Et vous me direz, mais comment pouvez-vous expliquer cela? Je prends juste ce passage où un jour, Pierre, Jésus dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan !» Quelle parole! Et il explique, « Mais parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont des pensées humaines. » Et un peu plus loin dans les Écritures, parce qu'il faut lire sa Bible. Vous savez, la Bible, elle ne vient pas dans notre esprit en rêvant la nuit. Hein. Non, j'ai essayé, ça ne marche pas. La Bible, elle vient parce qu'on la lit. Et on la relit. Et on la relit encore. Et Jésus dira un jour à Pierre, « Quand tu seras converti, affermis tes frères. » J'ai dit, « C'est pas vrai. » Si, c'est pourtant c'est vrai, hein, c'est une manière de s'exprimer. Pierre n'était pas converti. Puisque tu lui dis, quand tu seras converti, affermis tes frères. On a besoin de progresser. On a besoin d'avancer. Autant que nous soyons, peut-être pour certains, cet après-midi, c'est le premier pas. C'est de dire, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, je suis misérable, mais je veux être sauvé. Je veux être sauvé. Je sais que tu m'aimes. Peut-être quelqu'un dira, Seigneur, ça fait des années que je marche. Enfin, je marche. Je piétine. Je boite. Je vis en dessous, Seigneur. Il y a des belles phrases, il y a des belles promesses. J'ai l'impression d'être cet aiglon-là dans le poulailler. Seigneur, élève-moi. Fais-moi grandir. Aide-moi à atteindre ce rocher que je ne puis atteindre par moi-même. Tu vois, dans ma vie, il y a encore trop de confusion entre le sacré et le profane, entre ce qui est du monde et ce qui est à toi. Ce qui est une vérité biblique et ce qui est parfois des doctrines humaines. Seigneur, je veux plus cela. Je veux plus cela. Parce que je veux être à ton service. Et pour être à ton service, Seigneur, je veux être avec le caractère qui correspond. Je veux être avec le comportement qui te correspond. Seigneur, purifie-moi. Renouvelle-moi, fais-moi du bien. Et c'est peut-être un chrétien qui vient, qui, pour différentes raisons, pas de jugement, a été brisé, cassé. Mais vous savez, le maître que je sers, le Dieu que j'aime, comme le dit un cantique, il ne brise pas le roseau cassé. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Même, il ramène le bateau jusqu'au port. Ça, c'est beau. Il ramène. Tu as été secoué par des tempêtes, abîmé dans ton cœur. Mais au fond de ton cœur, tu l'aimes quand même. Tu te dis, voudra-t-il encore de moi? Pourrais-je encore le servir? Pourrais-je encore le suivre? Écoute-le te dire par le Saint-Esprit, viens. viens, je t'aime et je veux te transformer encore. Je veux t'apprendre. Si tu es disposé dans ton cœur, alors je veux t'apprendre. Voulez-vous que nous courbions nos fronts? On va peut-être se lever. Si vous le souhaitez, levez-vous. Comment ne pas te remercier, notre Dieu, toi qui par compassion, dans ton amour infini, es venu jusqu'à nous. Nous étions dans l'ignorance entre le sacré et le profane, entre ce que le monde dit, ce que les religions disent et ce que la Bible dit. Seigneur, pardonne notre confusion. Mais merci pour ta parole. Elle est une lampe à nos pieds. Elle est une lumière sur notre sentier. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Et cet après-midi, quelle grâce, quel bonheur de savoir que tu nous tends les bras, que tu veux encore nous serrer sur ton cœur, que tu veux, Seigneur, nous dire « Tes péchés sont pardonnés. Viens, viens et suis-moi. Viens et reprenons la route ensemble. Seigneur, je sais que tu bénis. Tu ne parles pas pour rien. Tu aimes, tu fortifies. Et Seigneur, même dans les cœurs abîmés, dans les esprits brisés, par le Saint-Esprit, tu agis. Fais descendre le feu du ciel dans les cœurs. Viens, consume la rouille qui est en nous et fais de nous un peuple vivant, audacieux, courageux, zélé pour toi, proclamant ton nom. Oh, merci de bénir mes frères et mes sœurs et mes amis. Amen. Amen. Asseyez-vous.